L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
Depuis l'aube des temps, les hommes et les idées s'affrontent en général pacifiquement quand leurs opinions divergent, et c'est aussi de cette manière que le monde et la pensée ont pu évoluer. Les débats vifs, les polémiques constructives n'ont pas épargné les savants de l'âge d'or des sciences arabes. Et c'est surtout à propos de l'astrologie que les pros et les anti avaient soit des discussions passionnées, soit des discussions par traités interposés. Et toujours autour d'une grande question que les débats se sont focalisés. Est-ce que l'astrologie est vraie? Est-ce que les astres ont eu un impact et permettent réellement de prévoir les événements? Autre question tout aussi grave, même de nos jours. Est-il licite de pratiquer l'astrologie alors même qu'on sait et qu'on croit que Dieu est responsable de toutes les actions du monde? Des savants, des théologiens ont eu beaucoup à discuter ce genre de questions et d'autres encore, des interrogations nécessaires pour l'avancée de la science et de la pensée scientifique et même philosophique. Professeur Djebar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la plupart des gens peuvent penser que les scientifiques sont des personnes discrètes, tout à fait désintéressées, en accord avec leurs collègues, puisque, disons, les résultats de la science sont acceptés par tous, hein, d'une manière générale. Il faut le dire, vous m'avez suggéré que l'on consacre toute une émission aux disputes entre savants, c'est donc ce soir. Et la première question qui vient à l'esprit, on se demande si les savants de l'Empire musulman avaient des raisons ou des occasions de défendre énergiquement leurs travaux, de débattre, disons, de certains aspects de la science et même d'entretenir des polémiques entre savants et entre activités scientifiques.
En tout cas, on le constate.
Oui.
On constate aussi la diversité des sujets, des occasions, des situations où des scientifiques ont débattu. Il faut inclure les philosophes, les théologiens, les astrologues aussi. Et puis, s'ils ont débattu entre eux, c'est tout simplement parce qu'il y avait des choses à débattre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu une science vivante, ça aurait été des consommateurs, des utilisateurs, des gens qui appliquent le savoir des autres. Et donc, il n'y a rien à discuter pour résoudre les problèmes. Mais lorsqu'il y a des choses à discuter, ça veut dire qu'il y a soit des problèmes de conviction qui ne sont pas partagés, sur des idées nouvelles. Soit il y a des problèmes de préséance, de priorité, de défense d'une conception du monde contre une autre conception du monde. Tout cela, on va le voir soit directement, soit en filigrane, soit indirectement, parce que malheureusement, nous n'avons pas tous les textes. Je l'ai souvent dit, les historiens des sciences sont tributaires des documents qui nous parviennent, et cela représente à peu près, peut-être, moins de 1% de ce qui dort dans les bibliothèques. Puisqu'on l'estime à peu près à 5 à 6 millions de textes manuscrits qui dorment quelque part dans les bibliothèques publiques et privées, et bien pour les sciences, malheureusement, il y en a peu. Et avec ça, on essaye quand même de trouver des réponses à ce type de questions que vous avez posées.
Voilà. Alors, j'ai une autre question qui me semble importante. Est-ce que les savants arabes, arabo-musulmans, on va dire, hein, pour rétablir les choses, les théologiens, les philosophes, se sont inspirés un petit peu de la tradition grecque et notamment de Aristote, qui n'hésitait pas à poser leurs interrogations en public et à débattre, parfois de manière très très passionnée?
Ça, c'est sûr, puisqu'ils ont lu dans les ouvrages qu'ils ont traduits. Ils ont trouvé aussi dans ces ouvrages, ou bien accompagnant ces ouvrages, ou bien dans les commentaires, des éléments de débat. Ils se sont inspirés sûrement de ces débats. Mais c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, compte tenu du fait que la science va se développer tous azimuts, cela ne va pas se limiter uniquement aux débats philosophiques ou théologiques. Cela va débattre aussi de problèmes de science, de problèmes fondamentaux. D'une manière plus précise, il y avait différents types d'occasions pour débattre, ou pour polémiquer. Il y a les débats entre scientifiques d'une même spécialité. Alors ce sont des débats évidemment un peu spécialisés, ésotériques, etc. Donc ça ne concernait pas les autres. Mais on a quand même des traces. Il y a des débats où les scientifiques interviennent, mais au même titre que les autres, mais dans une discussion plus générale, ou dans un espace beaucoup plus général. Donc ils n'ont pas la prééminence, ils ont une opinion parmi d'autres. Et ça c'est intéressant de le dire. Il y a aussi des débats sur des sujets, ce que vous avez signalé, philosophiques ou théologiques, mais où on sollicite le savant pour donner son opinion de spécialistes sur une question qui n'est pas de sa spécialité. Il y a aussi des débats beaucoup plus délicats, c'est la place de la science dans la société. À ce moment-là, c'est plutôt les savants, quelle que soit leur spécialité, qui auront tendance à vouloir défendre leur domaine. Nous n'avons pas de témoignages directs, mais nous avons des attaques contre les activités scientifiques. Et donc, on peut supposer qu'il y a eu des réponses, et puis il y a une réponse aussi fondamentale, c'est que les sciences ont continué à se développer. Ça veut dire qu'il y avait toujours des partisans de la science. Et puis il y a eu des situations où les scientifiques sont sollicités par le pouvoir ou par un personnage important qui les finance, un mécène. Il leur demande soit leur opinion sur une question déterminée, une question technique, soit une question philosophique, soit une question scientifique large qui intéresse le pouvoir, parce qu'il est cultivé.
Un peu comme le consultant aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. Ou alors parfois, tout simplement, le pouvoir ou le représentant du pouvoir, il est là, il fait l'arbitre, parce que ça l'intéresse, c'est amusant, l'arbitre entre un groupe de spécialistes dans un domaine et un autre groupe. Et c'est un plaisir pour lui de voir comment chacun va résoudre les problèmes, comment chacun va défendre son camp. Nous avons un ou deux exemples sur ça.
Là, vous venez d'expliquer un petit peu, grosso modo, les différents types de débats ou de polémiques qu'ont été amenés à vivre les savants, les scientifiques, les théologiens, les philosophes. Mais à quelle occasion, justement, les scientifiques ont été amenés à débattre de problèmes scientifiques ou à polémiquer entre eux? Parce que c'est entre eux, forcément.
Justement, votre question contient la réponse. Il y a eu d'abord des débats et puis il y a eu des polémiques. Ce sont plutôt des défenses d'opinion ou défense de position. Donc, c'est pas très scientifique. Par contre, les débats, c'est beaucoup plus serein. Ce sont des discussions entre gens civilisés, dans un cadre tout à fait agréable, où il n'y a pas de tension. Et on parle de choses qui intéressent tous ces intellectuels qui se sont rencontrés pour débattre, après tout, librement.
Donc, plutôt des rencontres d'idées.
Du moins, ce que nous apportent les témoignages. Il y a une autre partie de débats qui sont des débats par texte interposé, des débats indirects. Et là, il peut être virulent, parce que les personnes ne sont pas en présence. Mais disons, grosso modo, pour les débats, il y a eu un sujet très important qui a concerné les gens. Doit-on pratiquer certaines sciences et abandonner certaines sciences pour des raisons qui sont non scientifiques?
Par exemple, l'astrologie, je suppose.
Par exemple, l'astrologie. Par exemple, la philosophie. Ça va aller plus loin. Est-ce que les musulmans doivent étudier les sciences produites par des gens qui n'étaient pas musulmans, qui n'étaient même pas monothéistes, qui étaient des Grecs ou des païens? C'est aller très loin. Donc ces questions vont être posées. Les auditeurs ne savent pas que l'esprit scientifique en pays d'islam s'est frayé un chemin dans le cadre quand même d'une bagarre d'idées. À partir du moment où il y a eu des phrases du Coran effectivement qui étaient favorables aux sciences, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Eh bien si, il y a eu des problèmes, surtout quand il s'agit de problèmes à connotation religieuse. Parce que le problème toujours entre les hommes et les femmes dans une société, ce n'est pas le dogme, ce n'est pas la religion en tant que telle. Ce n'est pas un texte philosophique en tant que tel. C'est comment il va être interprété.
Ce qu'on en fait après.
C'est ce qu'on en fait après. Donc c'est l'histoire des idées, l'histoire des hommes. Et sinon le dogme, lui, a priori, ne pose pas de problème. Il y avait des discussions sur quelle science fallait-il abandonner, quelle science devait être considérée comme dangereuse, quelle science devait être considérée comme inutile. On est allé très loin. Et puis, doit-on carrément nous limiter uniquement aux sciences qui sont utiles pour les musulmans ou pour les monothéistes d'une certaine manière? Nous n'avons pas tous les éléments de la discussion, mais nous avons des témoignages de gens qui étaient contre telle ou telle position.
Alors, par exemple, il y a eu des débats plus que passionnés autour de l'astrologie, où l'on disait que Dieu était prééminent et que le destin était tracé.
Alors, ceux qui ont attaqué l'astrologie avaient des arguments très sérieux, à tel point que ces arguments étaient de plusieurs sortes. Il y a les arguments théologiques. Disons, après tout, il n'y a que Dieu qui peut connaître l'avenir des êtres humains, de la Terre et du monde, de l'univers. C'est lui qui a créé tout ça. Donc il n'est pas possible que les êtres humains puissent avoir cette capacité de Dieu, de lire l'avenir. Et donc, il faut interdire toutes ces activités qui vont faire croire aux fidèles que des êtres humains peuvent atteindre la capacité de Dieu. D'autres disent non, mais personne ne remet en cause la seule capacité de Dieu de connaître l'avenir. Mais comme l'avenir est défini par Dieu, l'être humain, lui, part uniquement d'un postulat très simple, qui est que si on admet que le destin des hommes, des individus, des groupes, est lié aux événements du ciel, des mouvements des planètes, qui, elles, sont déterminés par Dieu. Personne ne discute ça. Mais comme le devenir des hommes est lié à celui des planètes, si on connaît scientifiquement l'avenir des planètes dans leur mouvement, dans leur conjonction, dans les éclipses, etc., puisqu'on admet que les deux événements, les événements du monde supralunaire, les événements du monde sublunaire, sont liés, là, on ne remet pas en cause la prééminence de Dieu. L'être humain, grâce à la science, va trouver uniquement les relations scientifiques, objectives, qu'il y a entre tout ce qui se passe sur la Terre et tout ce qui se passe au-dessus de la Terre. Et c'est comme ça que les astrologues s'en sont sortis pour convaincre en particulier les décideurs, les califes, etc., de les autoriser à continuer à pratiquer l'astrologie. Et comme les décideurs avaient intérêt à utiliser l'astrologie pour prédire leur propre avenir, donc, grosso modo, malgré les interdits des théologiens, de tous les théologiens cette fois-ci, chrétiens, juifs, musulmans, ça, ils étaient cohérents. Les interdits, bien là, les philosophes contestaient, parce qu'ils disent scientifiquement, ils ne peuvent
pas
le prouver.
C'est pas possible, oui.
Voilà, mais c'est un postulat. Malgré ces interdits, on a constaté effectivement qu'on n'a jamais pu interdire dans la pratique la publication de centaines d'ouvrages d'astrologie, ni la pratique des astrologues, ni même le financement de l'astrologie par les princes, les gouverneurs et les califes.
Alors, pour revenir, je dirais, à débat et polémique, où et comment les scientifiques débattaient entre eux des sujets qui les préoccupaient? Est-ce que ça se passait comme chez les Grecs avant ou c'était différent?
On a quelques informations, on a quelques exemples. On a constaté qu'il y avait parfois des réunions qui étaient présidées par le calife lui-même, en particulier à l'époque de Al-Ma'mun, qui a régné de 813 à 833. Il réunissait les grands savants, soit chez lui, dans le palais, soit dans Bayt al-Hikma, qui est la maison de la sagesse, que Harun al-Rachid aurait construite. Et là, les grands savants étaient gratifiés, et ils avaient une pension, ils allaient y travailler. Il y avait aussi des réunions, nous avons des preuves, et on discutait de certains problèmes. Il y a aussi des princes, des gouverneurs, parce qu'ils étaient cultivés.
Et c'était quand même une élite.
Et ça veut dire qu'il y avait une élite. Ce type d'élite n'existait pas encore en Europe, à la même époque. Donc il y avait des gouverneurs qui, par exemple, faisaient réunir des gens. Au Xe siècle, on a l'exemple d'Aboul Wafa, qui est un grand mathématicien, astronome, qui se rencontrait avec des artisans, et qui discutait de la manière de résoudre certains problèmes. Problème tout à fait pratique, hein, de décoration liée au travail de l'artiste. Alors, il y a eu des salons à Cordoue et à Bagdad au Xe siècle. Il y a Ibn Abi Usaybia, qui est un grand bibliographe du XIIIe siècle, nous donne l'exemple au moins d'un salon de Bagdad qui était très très fréquenté et qui était animé par une femme très très riche et qui réunissait, soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours, des intellectuels de différents bords, et ça traitait de théologie, ça traitait d'astrologie, de science, accessible à tous bien sûr. Elle leur faisait, je suppose, un dîner. Peut-être que ça se faisait encore mieux pendant les soirées de Ramadan, allez savoir, je ne sais pas. Toujours est-il que ces témoignages ont été rapportés comme étant des lieux privilégiés où les gens, après leur travail, hors de leur domaine de spécialité, se rencontraient pour échanger des idées sur des questions qui les concernaient tous.
C'est souvent les femmes qui avaient l'idée de ces salons. On a bien vu les salons littéraires du XVIIIe et XIXe siècle, notamment en France, en Europe, etc. Mais je ne savais pas du tout qu'à l'époque des sciences arabes et de l'âge d'or des sciences arabes, femmes comme ça pouvaient tenir salon, comme on dit, et favoriser tous les débats.
Tout à fait, tout à fait. On précise simplement qu'il y avait un petit rideau, et puis la dame, avec toutes ses amies, femmes, était derrière le rideau, et elle discutait avec les hommes. Il y avait aussi des débats entre savants, mais pas nécessairement en étant présents tous les 2, ou tous les 3, ou tous les 10. Mais ce sont des débats par correspondance. Et ils sont aussi riches, et même plus profonds, plus continus, que les autres débats qui pouvaient être occasionnels sur décision de tel ou tel prince, tel ou tel mécène. Par exemple, Al-Biruni, avec Aboul Wafa, ils ont eu des discussions, et ils ont préparé même des activités scientifiques. Il y a eu des correspondances à des distances absolument faramineuses, et entre des personnes qui n'étaient pas de même confession, pour montrer aussi que ces débats ne concernaient pas uniquement la théologie, ils allaient au-delà. On a le bel exemple d'Ibn Bajjah, qui est mort en 1138, donc c'est un Andalou, il vivait à Saragosse, il avait deux amis. L'un était ministre à Grenade, il s'appelle Ibn al-Imam. L'autre était un intellectuel juif de Saragosse, mais qui avait émigré. Il a préféré aller travailler au Caire. Donc vous voyez le monde musulman comme il était grand.
Oui, l'Empire Monde, le fameux Empire Monde.
Cet intellectuel juif ne va pas à Jérusalem. Hein. Il va dans un centre scientifique et intellectuel du monde musulman. Parce qu'il se sentait bien là. Il parlait l'arabe, il écrivait en arabe, il pensait en arabe. Il y a des correspondances où Ibn Bajjah parle de problèmes de mathématiques, d'astronomie, de philosophie. Il parle de ses projets. Il interroge ses amis pour leur demander leur avis sur telle ou telle question. Il nous est arrivé 2 lettres. On a l'impression que leur correspondance était régulière. Et que, de toute façon, ces 2 lettres n'étaient qu'un aspect de la discussion à distance qui se faisait entre ces intellectuels. Il y a aussi toujours ce Ibn Bajjah, qui était vraiment un très grand bonhomme et qui est mort jeune, malheureusement. Il est mort assassiné pour des raisons politiques, pas pour ses idées philosophiques ou scientifiques. Il a eu des débats, alors cette fois-ci très très sérieux, mais sur des sujets qui n'étaient pas scientifiques. C'est sur la grammaire, figurez-vous. Pourquoi ? Il était, je ne sais pas où, dans quelle ville, peut-être à Séville ou ailleurs, ou à Cordoue. Puis il a rencontré un grand grammairien qui s'appelle Ibn Sayyid al-Badaliyusi de Badajoz. Ils ont discuté de questions absolument très très importantes à l'époque, très importantes. Quelles sont les sciences qui sont autorisées, pas autorisées? Est-ce qu'il fallait introduire la logique d'Aristote, qui était un outil de la pensée, pour étudier la grammaire? Ou est-ce qu'il fallait étudier la grammaire selon les traditions arabes, c'est-à-dire en allant chercher uniquement les origines des expressions de l'idiome arabe, des formulations, du vocabulaire, dans la région où l'arabe était parlé avant l'islam, c'est-à-dire en Arabie, aller chercher l'arabe pur, ou alors étudier les structures selon les critères de la logique, ça veut dire qu'on mettait la logique au-dessus de la langue arabe. Si on acceptait ça, pourquoi ne pas utiliser la logique pour étudier, discuter des problèmes de théologie? Ça va très 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 loin.
Et un vrai débat scientifique.
Hein. Un vrai débat scientifique, d'intellectuel, etc. Et Ibn Sayyid al-Badaliyusi n'était pas content du tout, parce qu'il nous est parvenu un texte où il dit « J'ai été avec M. Ibn Bajjah, Et puis il m'a posé des questions, il m'a énervé, quoi. C'est-à-dire qu'il disait presque qu'il était malhonnête, quoi. Qu'il n'avait pas à poser ces questions de ce type-là. Et après il est parti, il a fait croire aux gens qu'il a eu raison. Et que moi je n'ai pas pu défendre mes positions. Il est allé le dire à tout le monde. Il a écrit un article de recherche, hein, attention, qui nous est parvenu. Qui a été publié par M. Amrani Jamel, qui est un grand chercheur au CNRS à Paris. Il dit, attention, maintenant que j'ai le temps, eh bien, je vais mieux défendre mes positions par écrit. Et là, il explique que lui est contre l'introduction de la logique en grammaire.
Il a eu son droit de réponse.
Absolument.
Alors, quel est, disons, le premier grand débat qui a concerné les sciences? C'était autour de l'astrologie ou d'une autre activité scientifique?
Alors, en fait, le vrai grand débat qui a commencé dès le 9e siècle ne concernait pas une science. Il concernait vraiment le devenir de la tradition scientifique arabe. Ce n'était pas un débat direct. C'était à fleur et moucheté, comme on dit. C'était indirect. On n'a que les arguments d'un camp. On n'a pas les arguments des autres. C'est le camp des théologiens conservateurs, dogmatiques, qui, grâce à leur interprétation de certaines phrases du Coran, n'étaient pas d'accord du tout pour englober dans les sciences, parce que le Coran parle des sciences. Ils disent non, l'exégèse est très importante. Dieu a voulu dire les sciences qui servent la religion, qui servent à la limite la communauté musulmane. Toutes les autres sont soit inutiles, on peut les abandonner, soit dangereuses, il faut les condamner. C'est des discussions, donc vous voyez, qui sont fondamentales parce que ça détermine l'avenir même, indépendamment des opinions sur telle ou telle discipline, bien sûr. Et là, il y a un grand spécialiste qui s'appelle Goldziher, qui est un Allemand, qui dans les années 20 a fait des recherches très très sérieuses. C'est un grand orientaliste, hein, qui connaissait l'arabe et tout, et qui a rassemblé toutes les opinions de ces grands théologiens conservateurs, très dogmatiques, du 9e siècle d'ailleurs jusqu'au 14e siècle, qui étaient tous contre le développement des sciences, dites des sciences anciennes, avec un grand A, c'est-à-dire les sciences grecques, les sciences mésopotamiennes, les sciences égyptiennes, les sciences indiennes, mais en fait ils visaient surtout les sciences grecques, c'est-à-dire que les Arabes ont pu avoir à partir des fameuses traductions qui ont duré quand même un siècle et demi, de la fin du 8e siècle jusqu'au milieu du 10e siècle. Et là, Goldziher a voulu montrer que les musulmans orthodoxes, parce qu'ils étaient musulmans orthodoxes, sous-entendu les autres étaient plus gentils, eh bien étaient fondamentalement contre la science. Pendant un certain temps, on a cru, effectivement, on a pris cet argument pour dire comment se fait-il qu'il y ait eu des sciences en l'islam, alors que l'islam lui-même, c'est-à-dire sous-entendu orthodoxe, parce qu'ils étaient majoritaires à 80%, l'islam fondamentalement était compris par tout le monde comme étant contre les sciences. En fait, c'était une lecture orientée. D'abord, il n'a pris essentiellement que des témoignages de gens qui étaient contre les sciences. Est-ce qu'il a trouvé des témoignages en faveur des sciences et il ne les a pas donnés? Alors ça, c'est facile, hein, il suffit de faire parler les scientifiques eux-mêmes. C'est ça le reproche qu'on peut lui faire, que les critiques aujourd'hui lui font. Tout ce qu'il a dit est vrai, mais c'est partiel et partial. En fait, non, en fait, il y a toujours eu des gens minoritaires qui étaient contre le développement des sciences qui venaient des Grecs, les sciences des anciens, et contre la philosophie, parce que c'est lié, bien sûr, parce que la philosophie vient exclusivement des Grecs. Et puis, il y a toujours eu des gens qui ont écouté sûrement toutes ces récriminations, ces critiques, mais ils les laissaient, et puis ils continuaient à faire de la science. La preuve, c'est qu'il y a eu 8 siècles de science, et même c'était l'unique espace où on a développé des disciplines entières, où il y a eu des sciences tout à fait originales. C'est la réponse à la question, est-ce que la science a été stoppée, elle a été freinée par ses positions, par ses débats, ses débatteurs qui étaient contre la science? Eh bien non, puisque la science s'est développée jusqu'au
oui,
15e siècle.
Et que ça a été l'âge d'or des sciences arabes.
Voilà. Mais seulement, avec ce débat, il y a eu un autre débat qui, lui, va avoir du succès plus tard. C'est l'opportunité ou non d'étudier la philosophie. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a aussi l'opportunité d'utiliser les outils de la logique pour étudier la langue arabe, pour étudier aussi des questions de théologie. Parce que, effectivement, on avait constaté que dès le 9e siècle, avec Al-Ma'mun a encouragé une tendance de musulmans qu'on appelle les Mu'tazilites, qui étaient des musulmans rationalistes, et qui, eux, utilisaient toutes les démarches rationnelles, donc déductives. Donc, ils utilisaient les outils de la raison. Or, les outils de la raison, c'est la logique. Et donc, ils utilisaient la logique, et même des éléments de philosophie, pour défendre l'islam, pour défendre leur position de l'islam. Donc, pour eux, ce n'était pas incompatible du tout. Au contraire, on prenait les outils développés par Aristote pour pouvoir défendre son islam. Eh bien, il y a des gens qui refusaient cela, qui disait, si on veut défendre l'islam, on ne le défend qu'avec les armes de l'islam, pas avec les armes des ennemis de l'islam.
Oui, voilà. C'est un débat, effectivement.
Alors, grosso modo, ce sont les premiers débats qui ont commencé, qui, à mon avis, se sont poursuivis, et lorsqu'apparaîtra le déclin, à un moment donné, ces débats vont revenir, mais avec un contexte différent, un contexte où la science est en train de reculer comme conséquence du déclin. Et à ce moment-là, effectivement, les arguments contre le développement des sciences qui venaient des Grecs, etc., vont porter. Parce que nous sommes dans un contexte nouveau, où l'opinion est plus sensible. L'opinion est plus sensible à ces arguments qu'elle n'était sensible à ces mêmes arguments entre le 9e siècle et le 11e siècle.
J'avais dit tout à l'heure, je le pensais et je continue à le penser, que l'astrologie pouvait être un des points de désaccord, de polémique et de débat entre les savants. L'astrologie, c'est, comme vous l'avez si bien dit dans une des toutes premières émissions, la mère de l'astronomie. Alors, puisque l'astrologie a eu ses problèmes, est-ce que l'astronomie en a eu, je dirais, pareillement? Et est-ce qu'il y a des exemples de débat, de désaccord entre savants à propos de astrologie et astronomie?
En tout cas, d'après les spécialistes, on constate qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire au 9e siècle, disons avant le milieu du 9e siècle, quand on parlait d'astrologie, d'astronomie, c'était à peu près la même chose, même dans le vocabulaire. On dit la science des étoiles. Alors il y avait beaucoup d'astronomes et beaucoup d'astrologues. Et comme par hasard, les astrologues devaient être bons astronomes. Mmh. Et oui, il fallait qu'ils utilisent les outils scientifiques de l'astronomie, qui est l'étude sérieuse, rigoureuse, mathématique même, géométrique, des mouvements des planètes, pour pouvoir appliquer ces résultats à la recherche de la connaissance de l'avenir des êtres humains et des groupes. Ça paraît cohérent. Et donc, on ne savait plus à un moment donné qu'est-ce qui était astronomie, c'est-à-dire activité purement scientifique, même si elle nourrissait l'astrologie, et qu'est-ce qui était astrologie. Donc on avait l'impression que l'astronomie, en fait, n'avait de raison d'être que parce qu'elle nourrissait l'astrologie. Donc elle était attaquée.
Elle en subissait les conséquences.
Absolument. Il semble qu'elle était attaquée, parce qu'on n'a pas de témoignage, mais un jour on les trouvera. Alors donc, les astronomes ont décidé, vers le milieu du 9e siècle, de changer d'appellation.
Directement,
pour ne pas être confondus avec les astrologues. Donc, à partir d'un certain moment, est apparue une nouvelle appellation, et je pense que c'est une réponse à ces attaques, dont on ne connaît pas vraiment le contenu en détail. L'astronomie a changé de nom. Ce n'était plus la science des étoiles, c'était la science de la structure de l'univers. Ilm al-Hay'a. La forme de l'univers.
La configuration du ciel.
Ou de la configuration
du ciel. Voilà, ça je me souviens de cette expression, voilà. Oui.
Structure de l'univers, configuration du ciel, figure du ciel, forme du ciel, c'est à peu près ça. Et du coup, tout ce qui était astrologie avait gardé le nom soit la science des étoiles, soit très vite il a eu le nom de Tanjim. Tanjim c'est de Najma, hein. Tanjim c'est-à-dire l'utilisation des étoiles. Et donc cette scission, cette séparation, déjà au niveau du vocabulaire, les spécialistes l'interprètent comme étant une volonté des astronomes de ne plus être attaqués, d'être victimes de la confusion entre ce qui est interdit, ce qui est charlatanesque, etc., dont ils vivaient eux-mêmes, hein. Bien
oui,
sûr.
C'est-à-dire, à la limite, le beurre, l'argent du beurre, ils ne le dédaignaient pas,
absolument.
Mais ils ne voulaient pas être attaqués pour autant.
Voilà, absolument. Un autre exemple, lui, est réellement interne à l'astronomie. Et là, c'est joli, c'est pas connu du tout. Entre astronomes, avec le développement de l'astronomie, ils ont eu à discuter de certaines hypothèses. Là, le problème, c'est vraiment entre scientifiques. Le premier débat très très important, qui nous est signalé par un grand savant du XIe siècle, c'est l'hypothèse que la Terre tourne autour de son axe. Peut-être que certains auditeurs le savent, ça a valu le premier procès de Galilée.
Effectivement,
au XVIIe siècle.
Oui, on s'en souvient tous.
Qui a émis l'hypothèse que la Terre tournait autour de son axe, déjà. Mm-hmm. Les astronomes ont discuté. Ce sont des astronomes d'Asie centrale, l'Iran, l'Afghanistan. Donc il y avait des grandes villes, des foyers scientifiques, de grands astronomes. Et ils ont discuté de l'hypothèse. Et comme c'était des débats entre scientifiques, d'abord ils ne se sont pas trucidés, ils ne se sont pas insultés. Il y a eu des divergences. Il y a eu deux opinions, ce sont des scientifiques. Comme on ne pouvait pas démontrer, comme pour toute hypothèse, donc on a pesé le pour et le contre. Et alors, il y a des gens qui étaient partisans d'accepter cette hypothèse, et ils ont même développé leur théorie, et on considère qu'un monsieur qui s'appelle Sidzi a même développé un concept d'astrolabe qui tienne compte, c'est ce qu'on dit, hein, qui tienne compte de cette nouvelle hypothèse. Et puis, il y a un autre camp, parce qu'ils avaient utilisé des arguments mathématiques et géométriques, qu'on se dirait non, il faut abandonner cette hypothèse parce que ce n'est pas possible. Parce que si on l'admet, vu son périmètre, la vitesse de la Terre serait tellement grande, disait-il, parce qu'il n'avait pas tous les outils de la physique moderne, qu'il est impossible que l'on voie un oiseau voler, parce que la vitesse d'un oiseau est toute petite. Si vous êtes sur la Terre et que la Terre tourne très vite, vous ne pouvez pas voir l'oiseau. Donc ça veut dire que ça ne tient pas, cette hypothèse ne tient pas. Donc certains l'ont abandonné pour cette raison. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est qu'aucun des deux camps n'a défendu son opinion avec des arguments autres que des arguments scientifiques. Que les arguments scientifiques soient faux pour nous, c'est pas grave. Ils reflétaient les limites de la science de l'époque.
Oui, mais c'est le principe.
Mais aucun n'a sorti des arguments astrologiques ou théologiques ou philosophiques. Purement scientifiques avec les éléments de la science de l'époque, comme elle était limitée, l'argumentation tenait parce que les deux camps comprenaient l'argumentation et acceptaient ou n'acceptaient pas en fonction de leur développement scientifique. Deuxième élément aussi, certains astronomes ont émis l'hypothèse qu'émettra plus tard Copernic, qui va être acceptée finalement par les savants en Europe, c'est que la Terre tourne autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. On a une phrase d'Al-Biruni, le fameux, qui laisse entendre que des astronomes ont discuté de la possibilité que la Terre tourne autour du Soleil. Vous vous rendez compte, si cette hypothèse avait été acceptée?
À l'époque, oui.
Bon, elle avait été émise par un grec il y a longtemps, puis abandonnée. Et donc, cette hypothèse a été émise, et elle a été abandonnée aussi.
Dommage.
Et donc, il y a eu des débats. Nous n'avons aujourd'hui des échos lointains de ces débats. Mais ces échos lointains sont très très importants quand on les a découverts, parce que ça montre qu'il fut une époque, dans cette société de l'islam, où il n'y avait pas de barrière pour le scientifique aux questions qui se posaient. Il avait la témérité du savant, il avait l'audace du savant, il avait
et
le courage.
Et la liberté de penser.
La liberté de penser, et le courage, et la curiosité, et surtout, il le faisait dans un espace scientifique où n'intervenaient pas les non-spécialistes. Ce n'était pas des discussions dans la rue, où on répondait à un scientifique par des arguments idéologiques.
Comme littéraires. On le voit un peu trop aujourd'hui, d'ailleurs.
Voilà. Il y avait des règles, on respectait des règles. Et certains débats ne devaient pas sortir de certains cadres. Ça, c'est une forme de modernité aussi.
Ah oui, et c'est très beau, effectivement, et on devrait s'en inspirer peut-être un peu plus. Vous avez écrit, et vous nous l'avez évoqué dans une émission, un livre intitulé « Une histoire de la science arabe ». Il faudra que tôt ou tard, on fasse une émission aussi sur votre livre, hein. Il n'y a pas de raison. Donc, vous avez donc écrit dans ce livre « Une histoire de la science arabe » que même les mathématiciens pouvaient ne pas être d'accord entre eux. Alors, comment est-ce que c'est possible, déjà, puisque là, on a des outils rigoureux, scientifiques. Est-ce que vous avez des exemples qui concernent les mathématiciens des pays d'islam ?
Les mathématiciens, les scientifiques en général, des pays d'islam, ont fonctionné comme leurs prédécesseurs scientifiques. Par exemple, il arrive à un mathématicien de remarquer qu'une démonstration donnée par un de ses collègues est fausse. Après tout, ça arrive. Par exemple, il y a eu quelqu'un qui a cru démontrer la fameuse conjecture, qui va être la conjecture de Fermat, XVIIe siècle. Est-ce qu'il existe trois nombres, tels que la somme des cubes de 2 est égale au cube du troisième? Est-ce qu'il existe trois nombres, x, y, z, tels que x au cube plus y au cube égale z au cube? Alors la conjecture, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pas possible. Les musulmans, avant Fermat, au XIe siècle, puisque c'est Ibn Sina qui nous informe qu'il y a eu discussion sur ça, débat sur cette question. Parce qu'on débattait aussi des conjectures, c'est-à-dire des hypothèses qui sont vraisemblables, mais qu'il faut démontrer. Donc on a la conviction que ça devrait marcher. Donc on dit aux jeunes, allez, essayez de démontrer. Donc il y en a un qui s'est lancé. La démonstration nous est parvenue, elle est en une demi-page. Alors ça nous fait sourire aujourd'hui, parce que la démonstration, la vraie, qui a été découverte en 1994 par Wills, elle demandait des centaines de pages.
1994.
Absolument, pour démontrer cette conjecture.
C'était
mais quand
hier.
Même, les Arabes ont osé, les musulmans ont osé poser la conjecture que ça a l'air de ne pas marcher. Donc ils avaient raison, en fait, mais ils ne pouvaient pas la démontrer. Donc imaginez quelqu'un qui, sans trouver la démonstration, remarque qu'il y a une erreur dans la preuve. C'est ce qui est arrivé. On remarque aussi qu'une preuve est incomplète. Donc on est tout content de dire qu'un grand mathématicien n'a pas donné tous les cas. Il a étudié que deux cas. On s'emprunce de compléter. Évidemment, quand on complète un grand mathématicien, donc on pense avoir la célébrité. Parfois, tout simplement, il y a quelqu'un qui a donné une démonstration. Elle est parfaite, elle est claire, sauf qu'elle est un peu longue. Alors, il y en a un qui vient et qui dit « Oh, bah, tout ce qu'a fait ce monsieur, ça montre son génie, etc. etc. Mais pourquoi il a mis 30 pages pour démontrer ça? Moi, je vais le faire en 15 pages. » Effectivement, s'il le fait en 15 pages, c'est parce qu'il a probablement trouvé des raccourcis qui montrent quand même ses capacités mathématiques, qui montrent aussi qu'il a compris ce qu'a fait l'autre. Et donc voilà un apport aussi, mais cet apport va provoquer une sorte de critique, de débat, sans que le premier soit là pour se défendre, le pauvre. Ce sont des critiques indirectes. Il y a eu des critiques de méthodes utilisées. Par exemple, une critique fondamentale. Faut-il faire des mathématiques, de la géométrie, uniquement en utilisant des objets fixes?
C'est-à-dire?
Pour définir le cercle, c'est l'ensemble des points qui sont à une même distance du centre.
D'accord.
Mais on peut définir le cercle comme étant l'ensemble des points obtenus en faisant bouger un rayon, en le faisant tourner sur un point qui est le centre. Donc, en le faisant tourner, ça veut dire qu'on introduit le mouvement. Doit-on faire toute la géométrie, la construire, avec des définitions qu'on appelle fixes, ou bien doit-on introduire le mouvement? Un grand débat. Grand débat. Surtout que Aristote a dit attention. Parce que les philosophes, eux, ont décrété ce qui était admis pour les mathématiciens, ce qui n'était pas admis. Vous vous rendez compte? C'est le philosophe qui décidait comment on devait faire la science. Eh bien, il y a des savants musulmans qui ont osé contester ça. Bon, ils n'osaient pas critiquer Aristote comme ça, parce que Aristote, bon, c'est le
Aristote.
Maître. C'est le premier maître, comme disaient les Arabes, le premier maître. Par contre, ils contournaient ces interdits de manière un peu inavouable, et ils utilisaient le mouvement. Ils contournaient l'interdit de dire que 1 est un nombre. Aristote dit 1 n'est pas un nombre. Les nombres commencent à partir de 3. Eh bien, il y a des mathématiciens qui disent, dans ma définition, dans mon livre, je considère que 1, 2, 3, jusqu'à l'infini sont des nombres. Il introduit à la fois 1 et l'infini. Il sera critiqué. Il dit, comment ? Tu as oublié ce qu'a dit Aristote ? Ou alors, tu as oublié que le 1, c'est l'unité, c'est l'unicité de Dieu, et qu'il ne peut pas être produit, c'est lui qui produit les autres nombres, parce qu'avec 1, on peut faire 2, avec 1, on peut faire 3, avec l'addition. Et comment tu oses dire que 1 est un nombre ? Alors, il ne peut pas se créer lui-même. Dieu, c'est lui qui crée la vie, qui crée la nature, qui crée les hommes. Personne ne peut le créer, il est incréé. Ça a des prolongements théologiques, des prolongements philosophiques. En général, les mathématiciens sont prudents.
Il vaut mieux.
Mais de temps en temps, il y a un mathématicien audacieux qui dit après tout, pourquoi ne pas dire que 1 est un nombre ? En fait, là, il vient d'ouvrir une brèche. Une brèche qui est qu'il vient de dire qu'il est possible de faire des mathématiques à partir de définitions conventionnelles. Non pas de définitions d'abord acceptées par les maîtres de la philosophie ou de la théologie. C'est-à-dire que nous sommes dans un espace de mathématiciens, on convient que tel et tel objet existe, comme ça, provisoirement, on travaille avec. Et puis, comme on dit, deux droites parallèles. Deux droites parallèles existent. Alors, allez chercher deux droites parallèles et les montrer au peuple dans la rue. Parce que justement, elles sont parallèles jusqu'à l'infini. Personne ne peut aller à l'infini. Mais le mathématicien, il faut bien qu'il convienne de ce que c'est que deux droites parallèles. Alors, pour le définir, il faut faire entrer le mouvement. Et bien, l'AFM a fait entrer le mouvement pour dire, voilà comment je définis deux droites parallèles. Puis Amal Khayyam, qui critique Ibn al-Haytham comme un gamin. Mais qu'est-ce que c'est que ce mathématicien ? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Pour qu'il aille transgresser les grands principes d'Aristote. La seule explication, c'est qu'il ne comprend rien à la philosophie. Il est abattu comme ça, en une phrase. Cette polémique, un débat aussi, va aller très loin, puisqu'elle va se poursuivre après la mort d'Ibn al-Haytham, qui est mort en 1041. Al-Khayyam est mort en 1131. Cette polémique, elle ne va pas s'arrêter tout de suite. D'abord, elle va se faire par écrit interposé. Parce qu'Ibn al-Haytham est mort en 1041. Khayyam va le critiquer sur cette question du mouvement. Il est mort en 1131. Et Nasser al-Din al-Tusi va reprendre ces discussions au XIIIe siècle. Il va dire que Khayyam a raison et que Ibn al-Haytham n'a pas raison d'introduire le mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a deux camps. C'est plus fondamental que des petites polémiques. Alors parfois, on va très très loin, mais le lecteur ne comprend pas, sauf s'il est spécialisé. On prend par exemple une définition, une démonstration, surtout les définitions. On prend la définition d'Euclide, par exemple, du livre 1 ou du livre 5. Et il y a des gens qui disent, oui, les définitions d'Euclide sont bonnes. D'autres, dans la même civilisation, des musulmans, disent, non, les définitions d'Euclide sont faibles, il faut les améliorer. Et il y a des débats, mais des débats vraiment, vraiment tellement pointus que c'est juste entre scientifiques et pour les comprendre, il faut un crayon à la main. Mais ce sont des débats fondamentaux sur le plan de l'évolution de la conception, soit de la définition, soit de la démonstration, et ça fait progresser quand même le savoir.
C'est ça l'essentiel.
Absolument, absolument. Par contre, ce qu'il faut dire, à contrario, là j'ai été très long pour cette réponse parce qu'elle est très importante, à contrario, toutes ces critiques que se lançaient les savants, ces débats, ces polémiques, ils ne faisaient jamais entrer des arguments théologiques, sous-entendu, toi tu es chiite, moi je suis sunnite, donc j'ai raison, des arguments régionalistes, toi tu es persan, toi tu es berbère, donc tu es loin de la science, des arguments confessionnels, toi tu es chrétien, toi tu es musulman, donc du coup tu es moins crédible ou plus crédible, ce ne sont que des arguments scientifiques sur la compréhension des individus de tel ou tel concept ou outil mathématique ou astronomique ou bien sur des choses, des phénomènes de la nature. C'est-à-dire qu'on juge de la production du savant et non pas du profil du savant lui-même.
C'est tout à leur honneur. Alors vous avez dit, à contrario aussi, que des savants se sont parfois engagés dans des polémiques qui n'avaient pas de caractère scientifique et qui ne concernaient, disons, que des questions de priorité dans la découverte de tel ou tel résultat.
Tout à fait. Alors là aussi, même lorsque les savants veulent se critiquer, ils ne prennent pas pour argument les spécificités ethniques ou confessionnelles, etc. Ils prennent pour argument l'honnêteté ou la malhonnêteté de leur collègue, c'est-à-dire quelque chose qui est humain. J'ai deux exemples, très jolis d'ailleurs. Le premier, c'est lorsque les astronomes musulmans et mathématiciens ont enfin pu résoudre un problème qui paraît très simple, qui servait aux astronomes pour faire leur table astronomique et qui servait aussi aux artistes pour décorer. Disons les murs, etc., avec des triangles, des carrés. Mais avec l'heptagone, c'est difficile. Eh bien, le jour où ils ont pu résoudre ce problème, certains étaient tellement contents qu'ils se sont empressés d'écrire à tous les collègues, etc. « Je suis le premier à avoir démontré ceci et cela. » Ils se sont disputés entre eux, ils se sont vraiment insultés d'une certaine manière, toujours poliment, parce qu'on s'insulte poliment entre savants. Mais en fait non, il dit, moi, je pense, d'après mon enquête, que le premier qui a fait telle chose dans ce domaine, c'est celui-là. Puis il n'a pas donné la démonstration complète. Est venu un deuxième qui a compris l'erreur du premier, il a corrigé. Puis il a oublié de signaler que le premier était le premier, donc il s'est attribué le résultat. Puis ensuite est venu un troisième qui lui a résolu à la fois ce problème et un autre, et qui donne une généralisation. Donc il dit, voilà la vérité, maintenant chacun choisira. C'est intéressant parce que ça s'inscrit dans une manière de fonctionner d'une communauté scientifique. Et le deuxième exemple, il est très joli, c'est au début du XIe siècle, on a commencé à chercher un outil pour les astronomes pour faire des calculs deux fois plus rapidement. Parce qu'ils faisaient des millions d'opérations, ils faisaient des tables, ils mesuraient, ils calculaient, etc. Et avec toutes les équipes qu'il y avait autour, ça demandait un temps fou. Il y avait des étudiants qui passaient leur temps à faire des centaines de milliers d'opérations dans leur vie. Ils faisaient ça avec des outils hérités des Grecs. S'il y avait un outil beaucoup plus performant, qui ferait gagner du temps, la moitié du temps, ce serait une victoire extraordinaire. Même si le résultat n'est pas scientifiquement très très important. C'est ce qui est arrivé vers le milieu du XIe siècle. On a découvert un résultat, une formule, qui a été tellement considérée, jugée comme importante parce qu'elle faisait gagner du temps, et parce qu'elle remplaçait un outil grec qui était très lourd. Et le premier outil, c'est le théorème de Ménélaüs, un mathématicien du IIe siècle. Bon. Et celui-là, on ne lui a pas donné le nom d'un mathématicien musulman. Pourquoi ? Et parce qu'il y a eu trop de prétendants. Il y a eu une polémique. Chacun a dit « je suis le premier ». Donc du coup, on n'a pas donné de nom du découvreur. Alors que Ménélaüs, on dit depuis des siècles, le théorème de Ménélaüs. Eh bien là, comme il y avait une polémique intense, on l'a appelé le théorème qui dispense du théorème de Ménélaüs. Et ensuite, on l'a coupé quand même. Et il est connu aujourd'hui comme étant le théorème qui dispense.
Ah, il s'appelle comme ça.
Tout simplement, c'est très joli.
Ah oui.
À chaque l'Elmorni. Effectivement, il dispense de l'outil très lourd, le rouleau compresseur hein, de Ménélaüs. Alors là, ça a provoqué une polémique. Et la polémique a été sérieuse à tel point que j'ai une citation ici d'Al-Biruni, qui est témoin de ces polémiques, et il dit « Ainsi en fut-il jusqu'à l'époque actuelle, notre époque si étonnante et prodigieusement féconde, donc ils sont conscients qu'ils sont les premiers en science, mais non exempte de contradictions. J'entends par là que si nos contemporains voient se multiplier les domaines de la connaissance, s'ils sont naturellement enclins à rechercher en toute science la perfection, s'ils réussissent même par des mérites accrus, mais là où les anciens les plus illustres avaient échoué, on trouve chez eux des comportements qui contrastent avec ce que nous venons de dire. Une âpre rivalité oppose ceux qui sont en compétition. Ils se jalousent mutuellement. Querelles et disputes l'emportent au point que chacun envie l'autre et se glorifie de ce qui n'est pas de lui. Un tel pille les découvertes d'autrui, se les attribue et en tire profit. Il voudrait encore que l'on feigne de ne pas s'en apercevoir. Mieux, qui dénonce son imposture est aussitôt pris à partie et exposé à sa vindicte. » Et là, nous sommes quand même dans une période de très haut niveau scientifique. Et ça montre d'abord qu'il y avait des scientifiques qui sont garants de la déontologie, qui n'ont rien à prouver, comme ce monsieur, Al-Biruni. Quoique, à un moment donné, ensuite, il dit « Parmi les premiers qui ont peut-être démontré ce résultat, c'est mon professeur. » Et puis, il y a aussi les problèmes de plagiat. Par exemple, on dit que Al-Khalil ibn Ahmad, sur sa théorie de la métrique arabe, peut-être qu'il a entendu parler de ce qu'ont fait les Indiens avant. Il dit « on n'en est pas sûr ». Il crée le doute. Oui. Il se peut que ça soit maléfique. Mais comme c'est venu beaucoup plus tard, parce que ce n'est pas un ennemi de Al-Khalil ibn Ahmad de son époque, il n'était pas concurrent pour un poste, ça nous permet, nous, historiens des sciences, de dire « tiens, il y a Anguille sous roche ». Donc on cherche, on n'a pas trouvé. Et puis il y a une accusation de plagiat qui concerne le Maghreb. C'est un mathématicien qui est quand même l'un des plus grands mathématiciens. Il est du XIIIe, XIVe siècle. Il était même l'un des derniers novateurs. Eh bien quand même, peut-être ses ennemis étaient jaloux de sa puissance. Il était reçu par les princes, par les rois. Il s'appelle Ibn al-Banna, il est mort en 1321. Il est originaire de Marrakech. Certains qui ont commencé à lancer des rumeurs du style « On dit qu'il a écrit un très beau livre d'algèbre, mais en fait, si on regarde de près, hein, il l'a tout simplement copié d'un livre qui est beaucoup plus beau, plus développé et plus ancien, du grand mathématicien de Béjaïa, qui s'appelle Al-Qurashi. » Et cette polémique, nous avons des traces. Et nous ne pouvons pas savoir si ils ont raison, les gens qui critiquent Ibn al-Banna. Donc c'est une question ouverte. Parce que nous n'avons pas encore découvert le livre d'Al-Qurashi. Moi-même, j'ai découvert quelques passages de ce livre. Et malheureusement, ces passages ne sont pas suffisants
pour pouvoir argumenter dans un sens ou dans l'autre.
Voilà. Si on a ce livre, d'abord, La découverte elle-même est très importante.
Oui.
Et surtout, ça nous permettra de lever cette énigme. Parce qu'il y a des énigmes sur les polémiques. Les polémiques ne sont pas toujours justifiées. Et donc, les historiens des sciences devraient trancher un jour. Bien, si la recherche avance, on pourra trancher sur ces polémiques.
Ben, vous l'avez dit, grâce au débat et aux polémiques, la recherche a avancé et notre connaissance à nous aussi ce soir. Professeur Djebbar, je vous remercie une fois de plus de nous avoir conté avec autant de passion et d'enthousiasme cet aspect de l'âge d'or des sciences arabes. Alors, on vous donne rendez-vous vendredi dès 18h15 pour une autre partie de l'âge d'or des sciences arabes. Bonne semaine et à vendredi.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Djebbar. Présentation Dalila Smaïl. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fourage.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.